rappelez-vous, on avait vu chaque fois ces différents aspects de la personne de Christ, Jésus, qui était d'abord dans l'évangile de Matthieu, qu'est-ce qu'il était ? Le roi, hein, le lion aussi. Dans l'évangile de Marc, serviteur, voilà, c'était le bœuf ou le taureau. On arrive au troisième évangile, l'évangile de Luc, et là, c'est l'homme, voilà, Jésus l'homme, hein, c'est le fils de l'homme, voilà, qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et en effet, quand vous ouvrez l'évangile de Luc, vous savez que l'évangile de Luc est celui qui raconte avec le plus de détails l'humanité de Jésus. Matthieu parle un petit peu de sa naissance, mais Luc raconte en détail sa naissance, même avant sa naissance, l'annonciation à Marie, hein, et puis l'accouchement, hein, pratiquement, là, dans cette étable. Donc Luc chapitre 1, Luc chapitre 2, et même Luc racontera un épisode de son enfance à l'âge de 12 ans. Hein, donc pas mal de détails sur l'humanité de Jésus déjà. Et on va lire pour commencer Luc 2, verset 40 d'abord. Luc 2, verset 40. Qui nous parle de cet enfant qui va grandir. Regardez Luc 2, verset 40. Or l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et puis plus loin, verset 52, toujours la même idée. Luc 2, 52, Jésus grandissait en sagesse, en taille ou en stature, et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ce qui est intéressant de voir ici, c'est que Jésus a connu les différentes étapes du développement et de la croissance d'un homme. Jésus était parfaitement homme. Il a d'abord été un bébé, il a été un enfant, il a été seulement un ado, un jeune, et puis un adulte. Et on le découvre dans l'Évangile, dans son ministère, quand il a 30 ans déjà, et qu'il commence son ministère. On verra que Jésus, donc, il a eu une croissance physique, il a une croissance morale aussi, hein, sociale, intellectuelle, que même parler de spirituel, hein, quelque part, on verra tout ça à travers cet évangile. D'abord, la naissance de Jésus, donc l'aspect physique. Jésus est né comme un homme. Il est né comme un homme, et l'Épître aux Galates nous dit Jésus est né d'une femme, voilà, né sous la loi. Et on le lit, hein, dans l'évangile de Luc ou l'évangile de Matthieu. Il va naître comme un homme d'une femme, mais un peu différemment, hein. Vous savez que la naissance de Jésus, c'est une incarnation. C'est Dieu qui se fait homme. On pourrait dire Dieu qui se met dans la peau d'un homme, dans notre peau. Hein. On utilise cette expression, mais là, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Il s'est vraiment incarné. Comme le dit si bien le docteur Moyer, il dit, écoutez bien la formule, hein, le Dieu qui a créé une femme sans mère, du corps d'un homme, a aussi formé un homme sans père du corps d'une femme. Vous avez compris? Je répète. Le Dieu qui a créé une femme, donc Ève, sans mère, à partir du corps d'un homme, hein, Adam, a aussi formé un homme, donc Jésus, sans père humain, hein, Joseph n'est pas son père, du corps d'une femme, de Marie. Effectivement, hein, c'est ce que nous racontent les évangiles. Hein. Jésus est né, on va lire Matthieu chapitre 1, versets 17 et 18, relire ces versets sur la naissance de Jésus. Il est dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit, par la vertu du Saint-Esprit. Donc, Jésus est né miraculeusement. C'est le Saint-Esprit qui a conçu, finalement, Jésus dans le sein de Marie, dans le ventre de Marie. Et c'est Luc qui raconte le plus en détail, hein, puisque c'est notre évangile aujourd'hui, c'est Luc qui raconte. Luc, médecin, c'est un médecin, donc lui, il sait ce que c'est qu'un accouchement, hein, connaît tout ce qu'est la grossesse. Hein. Donc c'est lui qui raconte avec foi. Il aurait pu dire, moi je suis médecin, je suis un scientifique, cette histoire d'une naissance, là, j'y crois pas trop, comme beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas. Et Luc, il était médecin, il était scientifique pour l'époque, il dit, mais moi je le crois. Je vais raconter tout ça, en détail. Il nous raconte comment cela s'est passé. Luc chapitre 1, verset 35. Luc 1, verset 35, nous lisons cet ange, hein, l'ange Gabriel qui parle à Marie et qui lui dit, il lui répond, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Voilà comment s'est passée la conception de Jésus. Le Saint-Esprit qui est venu, hein, la puissance du Très-Haut. La différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus ne participe pas à la nature pécheresse de Marie. Parce que Marie était pécheresse, hein, il faut quand même le rappeler, même si certains enseignent aujourd'hui encore que Marie était immaculée, sans péché, non. Marie était une femme... comme les autres, pécheresse d'ailleurs, dans sa prière, il dira, elle appellera Dieu son sauveur, hein, elle a besoin d'être sauvée aussi. Mais c'était une vierge, certainement, et elle a été choisie par le Seigneur. Et Jésus, tout en naissant dans le sein de Marie, dans le ventre de Marie, ne va pas hériter du péché, parce que le péché se transmet, hein, par les parents, c'est héréditaire. Mais ça ne sera pas le cas de Jésus. Il naîtra sans péché. Mais en même temps, en étant homme, il va avoir les limitations d'un être humain. Par exemple, il va avoir les besoins d'un être humain, besoin de manger. Il y a beaucoup de textes qui nous disent que Jésus a eu faim. Alors, quand est-ce qu'il a eu faim, Jésus ? Quand il était dans le désert, pendant 40 jours, il a jeûné. Donc à un moment donné, il eut faim. Mais on peut le penser, il a eu faim après 40 jours. Nous, on a faim des fois juste après une journée, une demi-journée. Lui, il a eu faim. Il était homme, mais un homme exceptionnel. Essayez de jeûner que pendant 40 jours. Je ne vous encourage pas. Hein. Il a eu faim à un autre moment. Ah, ça, on le connaît moins. C'est un jour, il se promenait avec ses disciples et il a eu faim, il a dit. Et il a vu un figuier. Et il a vu un figuier. C'est intéressant, si on va le lire, c'est dans Marc chapitre 11, regardez. Il a vu un figuier, Marc 11, verset 12. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Ah, c'est assez étonnant comme histoire, parce qu'il a faim, bon, c'est légitime, mais il voit un figuier de loin, et le texte laisse supposer qu'il ne sait pas s'il y a des fruits ou pas. Donc on voit les limitations de Jésus, hein, aussi. Hein, Jésus, en tant qu'homme, il y avait des limitations. Hein, et il s'approche et il voit qu'il n'y a pas de figue. Voilà. Jésus a eu soif aussi. Quand est-ce qu'il a eu soif, Jésus ? Déjà au puits, hein, à Samarie, un jour il voyageait, il s'est assis sur la marge du puits, déjà, et là il a eu soif. Il a eu soif et il a demandé à une femme de lui donner à boire, la Samaritaine. Il a eu soif à la croix aussi, bien sûr. Hein. À la croix, il a eu soif. Mais en même temps, il peut dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça, c'est l'homme parfait. Voilà. Il peut désaltérer celui qui a soif. Jésus avait besoin de dormir aussi. Est-ce que vous connaissez un épisode où Jésus a dormi, il était fatigué ? Dans la barque, à un moment donné, il faisait beaucoup d'activités, il se voyageait, et un jour, il s'est endormi dans la barque. Voilà. Quand est-ce qu'il était... fatigué aussi. Vous connaissez dans les épisodes, non? Je pensais qu'il y en avait un autre, mais bon. En tout cas, voilà. Dans la barque, il était fatigué, il a dormi. Ce sont les disciples qui ont dormi à un moment donné, c'est ça, avec lui. C'est eux qui sont endormis. Lui, il priait, voilà. Il priait dans le jardin et les disciples, ils dormaient. C'était les disciples. Ouais. Mais toujours est-il que, voilà, Jésus nous comprend quand on est fatigué. Hein, si vous êtes fatigué, il a dit d'ailleurs, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » Donc, si, voilà, il savait ce que c'était que la fatigue, besoin de dormir. Hein. Il a même sué, Jésus. Quand est-ce qu'il a sué ? Dans le jardin de Gethsémané, il a prié, il a dit qu'il suait, mais il suait tellement que c'était du sang. Voilà. Dans Luc 22, 44 d'ailleurs. Jésus était vraiment un homme de chair et d'os. Même intérieur que nous, il est la parole faite chair, nous dit la Bible. Il était de chair et de sang. On verra d'autres textes qui nous le diront. On peut se poser la question, est-ce que Jésus, puisqu'il était homme, a été malade ? Moi, je ne le pense pas. Parce que la maladie est liée à notre nature pécheresse. Et Jésus, tout en étant homme avec ses limitations, il avait la fatigue, c'est vrai, hein, il avait besoin de manger, de boire. Eh bien, la Bible n'en parle pas. Hein. Il est dit que Jésus, il a paru. Regardez bien ce texte intéressant, Romains 8, verset 3, il y a une petite nuance là, concernant sa nature humaine. Romains 8, verset 3, qui nous dit... ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur, ou notre version dit dans une chair semblable à celle du péché. Voilà. Donc semblable, hein. C'est vrai que semblable, ça peut vouloir dire aussi différent, quand même, hein. Ça ressemble, voilà. Mais la différence dans la nature de Jésus, c'est qu'il était sans péché, mes amis, sans péché. Il n'a pas hérité de la nature pécheresse de sa mère, et donc c'est pour cela que Jésus, est-ce qu'il a péché, Jésus? Jésus, jamais, hein. Sans péché, il était sans péché, il n'a jamais péché. Hein. En même temps, ça l'a pas empêché de connaître la souffrance et la douleur. Esaïe, ce prophète qu'on a évoqué qui parle de l'espérance, décrit Jésus comme l'homme de douleur, l'homme qui a souffert, habitué à la souffrance. Il peut compatir à nos souffrances. Jésus va même goûter à la mort. On va regarder un autre texte intéressant dans Luc 24, 39, toujours pour montrer la nature humaine de Jésus. Luc 24, 39. Il est dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Voilà, quand il est ressuscité. Donc il est ressuscité avec son corps. Hein. Un corps de chair aussi. Ce n'est pas un corps spirituel, hein. Ce n'est pas un corps immatériel, hein, même s'il a des capacités nouvelles. Mais voilà, il dit, touchez-moi et voyez. Regardez, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez bien, j'en ai. Et en disant cela, il leur montra, on continue à lire, hein, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger ? Donc voilà une preuve, s'il est vraiment de chair et d'os, ressuscité, il va... Ce n'est pas un esprit, hein. Ils lui présentèrent du poisson rôti, poisson grillé et un rayon de miel. Qu'est-ce qu'il fait ? Regardez, verset suivant. Il en prit et mangea devant eux. Donc Jésus ressuscité avait un corps, toujours un corps. Et on pense qu'il gardera ce corps pour l'éternité, mes amis. Ce corps, témoignage de son humanité, de son sacrifice sur la croix. D'ailleurs, rappelez-vous, quand il est ressuscité, à un moment donné, il s'est présenté à un homme qui ne croyait pas, il s'appelait comment ? Thomas. Il ne voulait pas croire. Il dit, si je ne mets pas mon doigt dans le trou de ses mains, de ses pieds, je ne croirai pas. De son côté. Hein, il s'est présenté un jour, hein, devant Thomas, il dit, vas-y Thomas, mets ton doigt. mon Seigneur et mon Dieu, il s'est incliné, il n'a pas fait, mais il aurait pu le faire. Parce que Jésus ressuscité, il avait toujours des marques, des plaies aux mains, aux pieds et aux côtés. Il restera toujours le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Êtes-vous sauvé ce matin? Est-ce que vous pouvez dire je suis sauvé? J'appartiens au Seigneur. Jésus est venu me chercher et il m'a trouvé. Jésus a connu aussi un développement, on l'a dit physique, mais aussi certainement sur le plan moral. Il avait toute la sensibilité d'un être humain, toutes les émotions. Par exemple, est-ce que Jésus a pleuré? À quel moment Jésus a-t-il pleuré? Pour la mort de Lazare. C'est le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Jean chapitre 11. Il a pleuré sur Jérusalem aussi. Jésus sensible, sensibilité, Jésus. Hein, cette sensibilité, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain. C'est ça qui fait. Jésus n'était pas un robot, hein, n'est-ce pas, ou autre chose. C'était vraiment un homme pleinement. Il a pleuré. Il a même dit qu'il a pleuré à un autre moment. Regardez Hébreux 5 versets 7 à 9. On connaît moins cela. Parce que l'évangile ne le détaille pas, mais dans l'épître aux Hébreux 5, versets 7 à 9, il est dit que c'est lui, pendant sa vie terrestre, Christ, il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. À quel moment ça? À quel moment a-t-il crié au Seigneur pour... Avant la crucifixion, à quel endroit c'était? Dans le jardin, certainement. Certainement, c'est une allusion au jardin de Gethsémané. Et ce texte nous rajoute qu'il a pleuré là aussi. Jésus a beaucoup pleuré. Mais Jésus s'est aussi réjoui. Connaissez-vous des textes où Jésus a aussi exprimé la joie? Noces
de Cana.
Aux noces de Cana, probablement, oui. C'était un jour de joie, de fête. Le texte ne parle pas de joie à ce moment-là, mais pourquoi pas? Ah, il y a des textes plus précis qui disent que Jésus... Comment? Peut-être, oui. Mais il y a un texte qui dit que Jésus s'est réjoui. Il a éprouvé de la joie. Luc 10, verset 1, regardez. À un moment précis, hein, Luc 10, verset 1, il s'est passé quelque chose, toujours dans cet évangile hein, que nous étudions aujourd'hui. Regardez ce qu'il est dit. Après cela... Non, c'est peut-être pas celui-là. C'est un peu plus loin. C'est Luc 10... Verset 21, ouais, il manque le 2. Verset 21. Regardez. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te suis reconnaissant, Père du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Rempli de joie par le Saint-Esprit. Et on peut imaginer Jésus, là, en train de se réjouir hein, vraiment dans la prière de ce que Dieu a révélé ces choses aux petits, aux humbles, aux enfants. La Bible nous dit qu'il a chanté aussi des cantiques avec les disciples. Quand on chante, on est joyeux. Hein, voilà. On devrait chanter. Voilà. En même temps, il a pleuré, on l'a dit. Il a aussi été parfois troublé, attristé. On pourrait chercher encore des textes là-dessus où Jésus parfois était attristé quand il voyait les réactions des hommes. Et donc, toujours pour rester dans ce domaine de la morale, Jésus a été tenté aussi. Jésus a été tenté, c'est-à-dire quand on est tenté, c'est pour nous pousser justement à pécher. Quand est-ce que Jésus a été tenté? Par Satan dans le désert. On ne va pas relire tout ce récit, mais vous pourriez... Hein. C'est un récit très fort où vraiment Satan met le doute, si tu es le Fils de Dieu. Mais on va le lire dans Hébreux. On revient à Hébreux, épître aux Hébreux qui est très très intéressante sur la doctrine de Christ. Hein. Si vous voulez apprendre sur Jésus-Christ davantage, lisez l'épître aux Hébreux. Il y a beaucoup sur la divinité de Jésus-Christ, sur son humanité aussi. D'ailleurs, regardez là, d'ailleurs Hébreux 2, 18, ce texte qui nous dit que il a été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté. Donc c'est une souffrance, la tentation. mais il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc il a été tenté, mais 4, verset 15, toujours hébreu. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui est incapable de compatir à nos faiblesses. Donc Jésus est compati, il sait ce que c'est, la souffrance, le péché, le mal, même s'il n'a jamais péché lui-même, mais il a été tenté. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous. Donc personne ne peut dire, mais Jésus, parce que c'est la tentation, moi j'ai des tentations qui sont insupportables, je ne peux pas résister. Tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Et le sommet de la tentation, c'était peut-être dans le désert, c'était très dur, mais avant la croix. Parce qu'avant la croix, à un moment donné, voilà, Père, voilà, est-ce, si c'est possible, c'est ce que je peux éviter la croix, la tentation de ne pas aller jusqu'à la croix. C'est une tentation aussi, de ne pas passer à la croix. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Mais il a dit, Père, pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, en conséquence, si vous êtes tenté, criez au Seigneur. Parce qu'il peut compatir, il peut nous secourir. Hein. Il peut nous secourir, il peut nous délivrer. Donc l'humanité de Jésus tentée, mais la divinité aussi, c'est-à-dire que voilà, le péché n'a pas de prise sur lui. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, lui dit Paul aux Corinthiens. Jésus n'a pas connu le péché, il n'a pas goûté le péché, mais à cause de nous, pour nous, pour nous sauver, Dieu a mis tous nos péchés sur Christ. Il a fait devenir péché pour nous. Voilà. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Croissance intellectuelle aussi. Dans ses limitations humaines, Jésus, ben, il a certainement appris à parler. Il ne faut pas croire qu'il s'est dans le berceau. Hein, il y en a qui racontent ça. Je crois que c'est dans le Coran. On raconte que Jésus déjà parlé très tôt, là, comme un adulte. Non, certainement, il a grandi comme un bébé, comme un enfant. On le voit à l'âge de 12 ans. Regardons ce petit détail. Luc, c'est encore Luc hein, qui nous raconte ça. Chapitre 2, verset 46. Vous savez que Jésus montait à l'âge de 12 ans à Jérusalem avec ses parents. Au retour, il ne le trouve plus. Jésus est resté à Jérusalem. On va lire ensemble, tiens, allez. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient et les interrogeaient. Verset suivant. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Donc on voit ici une intelligence qui se développe. Certainement que... On revient au verset 46, parce que c'est intéressant, regardez ce qu'il est dit. Il les écoutait et les interrogeait. Et il écoute, hein, il se laisse enseigner, il pose des questions, voilà. Il répond aux questions qui lui sont posées peut-être aussi. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Donc il montre de l'intelligence, c'était un enfant comme les autres, certainement, jusque-là. Il n'était pas un surdoué, forcément, il ne faut pas imaginer, voilà, déjà à 12 ans, il savait tout. Non, il a appris à lire, à écrire, on peut penser, peut-être à compter, etc. Et c'est vrai que plus tard, quand il arrive à 30 ans, hein, là, en plein dans son ministère, on voit que dans sa divinité aussi, il a une capacité que nous n'avons pas, il peut lire dans les pensées. Il savait ce qui était dans le cœur. Et il savait ce que pensaient les gens. Voilà. Mais en même temps, il ne savait pas tout. Qu'est-ce qu'il ne savait pas, par exemple? On a vu que là, ce figuier qu'il a vu de loin, finalement, le texte laisse penser qu'il ne savait pas qu'il n'y avait pas de figuier. Hein. Mais il y a un autre texte très important, quelque chose qu'il ne sait pas, Jésus. Voilà. Regardez, Matthieu 24, 36... Hein. C'est assez surprenant, on pourrait dire, mais c'est Jésus quand même, il sait tellement de choses, il annonce tout ce qui va arriver. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 24, 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, donc de son retour, de la fin des temps, on en parle le jeudi actuellement, personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel, bon ça on peut l'admettre, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît le jour et l'heure. Donc Jésus là, sur terre dans son humanité, il dit, moi je ne sais pas quand je vais revenir. Je sais que je vais revenir, mais je ne sais pas quand. Vous voyez, donc sa limitation. Hein. Jésus a eu aussi une vie sociale, hein, une vie sociale, il a eu une famille. Une famille modeste. Il est dit qu'il était riche, Jésus s'est fait pauvre pour nous. À quoi on voit que sa famille était modeste, au fait? Oui, Luc 2, les pigeons. Vous savez que quand il y avait une naissance, il fallait offrir un sacrifice. Et c'était selon la richesse. Et dans Luc 2, on peut le lire, hein, Luc 2, verset... Alors... Verset 23, 24... Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Voilà. Et puis verset 25, donc, il est devoir. Non, c'est, excusez-moi, c'est verset 24, oui. Donc il fallait offrir un sacrifice. Alors on pourrait, plus que ça, on pourrait offrir un agneau aussi. Hein, on pourrait offrir un agneau, voilà, si on était riche, etc. Mais eux, ils offrent un couple de tourterelles ou de jeunes pigeons. Voilà, ça montre que, bon, ils n'avaient pas les moyens, forcément, d'offrir plus. On sait que le papa, ce n'était pas un trésorier ou un secrétaire de quelqu'un. C'était quoi le métier ? Charpentier, métier manuel. Jésus a été charpentier, on l'appelle le charpentier, le fils du charpentier. Jésus a travaillé de ses mains aussi. Hein. Il a travaillé de ses mains. Il n'avait pas les mains, forcément, d'un écrivain. Il avait les mains d'un travailleur. On y reviendra. Donc, il a eu des parents, il a eu une maman qui n'oubliera pas la croix, parce qu'au moment de mourir, il dira à Jean, Jean, voici ta mère. Hein, il la confie à Jean. Quel âge avait Marie quand Jésus est mort? C'est dans l'imagerie catholique, on imagine Marie toujours jeune, vous savez, elle a toujours 20 ans. Hein. Mais Marie, elle a 30 ans de plus au moins. Hein. Oui. Eh oui, forcément, Jésus, il a 33, donc si elle avait... Elle avait peut-être même pas 20 ans, donc elle a plus de 50 ans, Marie. À l'époque, c'était vieux déjà, c'était âgé. Hein, donc, voilà. Donc il avait une maman, il a eu un papa adoptif, mais la Bible laisse penser qu'il est mort assez... Même avant que Jésus commence son ministère, parce qu'on n'en parle plus de Joseph, on parle toujours de Jésus, le fils de Marie, voilà, sa mère qui est là, mais on entend parler de sa mère et ses frères. Il avait des frères, il a eu des sœurs, hein, c'est des demi-frères, demi-sœurs, parce que Joseph et Marie ont eu des enfants. Donc Jésus avait une généalogie, si vous lisez l'histoire dans Matthieu, vous voyez que Jésus il avait des ancêtres, donc voilà, il avait... Une famille, il avait des parents, il avait des frères et sœurs, il avait des amis aussi. Pouvez-vous me citer, allez, 6 amis très proches de Jésus? Marthe, Marie, Lazare, c'est vrai que c'est des amis très proches, il les aimait vraiment. Après, Jean. Alors, plus proche encore, il y en avait 3. Pierre, Jacques et Jean, voilà. Pierre, Jacques et Jean, c'était vraiment les 3 intimes, hein, il les prenait souvent avec lui. Et puis... Lazare, Marthe et Marie. Voilà. Donc il avait aussi ce besoin d'amitié, hein, de besoin affectif, hein, de proximité avec certains. Jésus ne s'est pas marié. C'est réservé pour le sacrifice de la croix et pour son épouse spirituelle, l'Église. Hein. Donc Jésus vous comprend si vous êtes seul, si vous n'êtes pas marié, célibataire, divorcé, veuf, je ne sais pas. Jésus est passé par là. Jésus a eu une vie spirituelle aussi. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant dans la vie spirituelle de Jésus? Sa vie de prière. Moi, j'ai toujours pensé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a besoin de prier, Jésus? Il est Dieu. Il est en communication directe avec son Père et pourtant, il passe beaucoup de temps à prier. Il se lève tôt le matin, on l'avait vu la semaine dernière. Il passe des heures à prier certainement. Hein. Et c'est justement là qu'on voit toute son humanité, parce que ce qui caractérise un être humain, c'est le besoin de prier, le besoin de parler à Dieu. Et Jésus l'a démontré. Il donne un exemple disant, voilà, si moi j'ai prié, à plus forte raison, vous devez prier. Priez, demandez, louer le Seigneur aussi, hein, il a fait, mais remercier, intercéder. Lisons Luc 6, versets 12 et 13 à ce sujet. Luc 6, versets 12 et 13, qui nous dit: à cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Vous avez déjà vécu ça, passer toute la nuit à prier? Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Et quand le jour fut levé, il appela ses disciples, il en choisit parmi eux 12, auxquels il donna le nom d'apôtre. Voilà, il a beaucoup prié avant de choisir ses disciples. Dans le jardin, il a prié aussi, hein, on va juste rappeler, hein, il a dit à ses disciples, juste avant d'être arrêté: « Mon âme est triste jusqu'à la mort », donc on voit les émotions qu'il avait aussi. « Restez ici et veillez avec moi », on voit qu'il avait besoin d'être entouré à ce moment-là. Et là, c'est là qu'il va prier, on connaît l'histoire, hein, les disciples ils vont s'endormir, hein, au lieu de prier, et il va se retrouver seul finalement pour affronter son destin, hein. On va conclure. Jésus, homme, voilà, le Fils de l'homme, hein, de sa naissance jusque dans l'éternité. Hein, dans l'éternité, il gardera cette empreinte, cette marque d'humanité. Mais bien sûr aussi Dieu, parfaitement Dieu. On le verra la semaine prochaine. Jésus, le Fils de Dieu, dans l'évangile de Jean. Quelques leçons pour nous. L'exemple de Jésus nous montre que nous devons veiller au développement équilibré de toutes les composantes de notre personne. Développement de notre corps, de notre âme, de notre esprit, développement physique, moral, intellectuel, social, spirituel. Voilà. On est un ensemble, hein, c'est pas juste un corps. Hein. Aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup de son corps, de son apparence, mais il y a aussi notre âme. Voilà. Veillons à développer tout cela. Et puis, voilà, revenons sur ce verset, le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est, il a fait tout ce qu'il a fait là, hein, les souffrances, ses limitations, sa vie de prière, c'est parce qu'il est venu vous chercher. Il est venu nous chercher. Depuis Adam dans le jardin, Dieu nous cherche. Où es-tu ? Voilà. Venu chercher. Et nous sommes invités à nous associer à cette recherche, hein. Des âmes, l'évangélisation. Hier, nos amis, nous avons quelques amis russes ici, ukrainiens, voilà, ce matin. Vladimir, son épouse, et puis, je ne sais pas, ton prénom ?
Ludmila.
Oui. Ouais, très bien, voilà. C'était là hier soir, et je sais que, voilà, plusieurs sont allés dans la rue pour chanter, pour évangéliser, pour chercher, voilà, cet après-midi aussi, chercher. Ça, on peut le faire, mais par contre, sauver. Qui peut sauver? C'est pas nous, hein. C'est le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut sauver. Mais voilà, nous, on peut évangéliser, annoncer le message, hein, pour sauver ce qui était et ce qui est perdu encore aujourd'hui. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce ce matin de ce que Noël, c'est une belle histoire, Seigneur. Mais elle ne se limite pas à ta naissance, Seigneur. Noël, ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement de ta vie, de ton ministère, Seigneur. Et nous te louons de ce que, par les évangiles, nous avons le privilège de connaître toute l'histoire, du début jusqu'à la fin. Je te prie ce matin, Seigneur, que tu remplisses nos cœurs de joie, de paix, dans ce temps de fête, de garder un fardeau pour nos bien-aimés, nos familles, nos amis, nos voisins, Seigneur, de profiter de l'occasion pour redire encore que Jésus les aime, qu'il est venu les chercher et qu'il est venu les sauver. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Amen. Thank you.